RFI, 6h à Paris, 5h à Niamey. L'heure d'un nouveau point sur l'information avec Fabrice Legrier. Bonjour Fabrice.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Et à la une, ce dernier bilan et ses réactions après l'attaque perpétrée ce jeudi à l'aéroport de Niamey.
Au moins 13 personnes sont décédées d'après les autorités, parmi elles 11 soldats et 2 civils. Attaque revendiquée par le JNIM proche de Al-Qaïda. Le gouvernement assure que la situation est sous contrôle. Niamey, qui a reçu le soutien de ses partenaires comme le Bénin et l'Algérie, on y revient dans un instant. Le vice-président américain Jed Evans reporte sa venue en Suisse prévue ce vendredi. Là où devaient débuter officiellement les 60 jours de négociations sur le nucléaire iranien. La situation est donc floue ce matin, même si le protocole d'accord a été signé. Si l'Iran s'engage à ne pas se procurer ni développer d'armes nucléaires, beaucoup de questions se posent encore. Les détails dans ce journal. Et au Liban, Israël poursuit ses offensives contre le Hezbollah dans le sud du pays. 3 morts ce jeudi. Reportage à venir aux côtés des secouristes dans la ville de Nabatieh, vers laquelle des centaines de personnes déplacées de force ont pris la route du retour. Au Niger, au moins 13 personnes tuées. Dernier bilan donc des autorités après l'attaque terroriste perpétrée ce jeudi à l'aube à l'aéroport de Niamey. 22 assaillants ont par ailleurs été neutralisés. Cette fois, c'est le JNIM, proche de Al-Qaïda, qui revendique l'attentat. La situation est maîtrisée selon Niamey, qui a reçu le soutien de ses partenaires, dont le Bénin et l'Algérie, Sidi Yansane.
La profonde indignation de l'Algérie, la pleine solidarité du Bénin, de la Commission de l'Union africaine à la délégation de l'Union européenne au Niger, tous condamnent fermement cette nouvelle attaque de l'aéroport d'Uri Amani de Niamey. 6 mois après celle perpétrée par l'État islamique, c'est son rival du JNIM qui a revendiqué ce nouvel attentat, qualifié d'attaque suicide par le groupe djihadiste. Selon le ministère de la Défense, les assaillants ont tenté une incursion dans l'aérogare munie de ceintures explosives avant d'être repoussés par les forces de sécurité après 2 heures de combat d'après les témoins, faisant 22 morts côté djihadiste et un bilan provisoire de 13 morts, dont 2 civils côté forces armées nigériennes. Le gouvernement assure que la situation est sous contrôle. L'aéroport a repris normalement ses activités. Le régime de Niamey a une nouvelle fois accusé la France d'avoir soutenu cette attaque. Des mercenaires armés à la solde d'Emmanuel Macron, a insisté le ministère de la Défense.
Sidi Yansane. L'épidémie d'Ebola progresse dans l'est de la RDC. Le nombre de cas est en hausse. On compte désormais 896 cas confirmés, dont 232 décès dans le pays. La situation en Ouganda, elle, n'a pas changé. L'Ituri reste l'épicentre de cette épidémie, avec 799 cas confirmés. L'Organisation mondiale de la santé qualifie la riposte de robuste. De son côté, l'Agence de santé publique de l'Union africaine, l'Africa CDC, évoque une réponse ambitieuse, soutenue par d'importants investissements du gouvernement congolais et de ses partenaires internationaux. L'incertitude règne ce matin concernant le démarrage des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, des négociations censées durer 60 jours et portant sur le nucléaire iranien. Après la signature du protocole d'accord mercredi par Donald Trump et par le président iranien Massoud Pezeshkian, les négociations devaient démarrer officiellement ce vendredi à l'issue d'une cérémonie en Suisse. Mais on a appris ce matin que le vice-président américain Jed Evans a reporté son déplacement. La Maison-Blanche affirme que les plans pour les discussions techniques à venir n'ont pas été finalisés. Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur dans ce dossier, a également reporté sa venue. Un protocole d'accord qui a été approuvé malgré des réserves par le guide suprême iranien Mojtaba Ramenei. C'est donc le flou ce matin quant à ces négociations sur le démantèlement du programme nucléaire iranien, point hautement sensible. Si l'Iran s'engage à ne pas se procurer ni développer d'armes nucléaires, beaucoup de questions entourent les moyens d'y parvenir, Nicolas Feldman.
La première inconnue porte sur le sort des stocks d'uranium. D'après les dernières données, Téhéran disposait en juin 2025 d'un peu plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, un niveau inférieur au seuil requis pour un usage militaire, mais qui reste considéré comme particulièrement sensible par les experts. Pour régler ce point, le protocole d'accord évoque une option, diluer sur place les stocks d'uranium enrichi sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais les Iraniens donneront-ils la localisation de leur stock? Quels seront les mécanismes de contrôle? Les Américains auront-ils un droit de regard? Tout cela reste à trancher. Les autres interrogations concernent l'avenir de ce qu'il reste de la filière nucléaire iranienne, des centres de recherche aux centrifugeuses. Les négociateurs devront s'entendre. Les deux parties se donnent pour cela 60 jours, mais ne s'interdisent pas si besoin plus de temps. En 2015, le premier accord sur le nucléaire iranien répondait à toutes ces questions. Il avait été signé après 2 ans de négociations avant d'être déchiré en 2018 par Donald Trump.
Nicolas Feldman, de son côté, Emmanuel Macron a estimé ce jeudi soir ne pas croire que la guerre entre les États-Unis et l'Iran soit totalement terminée, même s'il est toujours mieux d'avoir un accord. Le président français, qui a par ailleurs appelé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à, je cite, faire preuve de responsabilité et de rationalité concernant l'offensive contre le Hezbollah au Liban. L'accord cadre signé entre Téhéran et Washington est censé comprendre le Liban, mais l'armée israélienne annonce poursuivre ses opérations dans le sud du pays, dans une zone qualifiée d'espace de sécurité. Hier, de nouvelles frappes israéliennes ont fait 3 morts, des affrontements près de la ville de Nabatieh, vers laquelle des centaines de personnes déplacées de force ont pris la route du retour. Et dans la ville même, les secouristes nettoient, les équipes médicales restent mobilisées. Amélie David les a rencontrées.
Les équipes de la défense civile de Nabatieh déblaient les décombres de leur centre, détruits par l'armée israélienne le 24 mai dernier. Hussein Dagdouk, l'un des porte-parole.
Nous sommes venus voir s'il restait quelque chose, si nous pouvions trouver un peu de notre équipement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'équipement qui reste, il n'y a rien. Nous travaillons pour établir un nouveau centre ailleurs. Nous restons au service des citoyens, des gens et de la communauté 24 heures par jour. Nous restons à Nabatieh et nous n'avons pas quitté Nabatieh une seule minute.
Près du souk historique largement détruit, les équipes des ambulances de Nabatieh ouvrent les voies. Mardi Saloum explique.
Nous avons commencé à nettoyer ici jusqu'à la moitié du marché et la mosquée. C'est de notre responsabilité d'aider afin que les gens puissent rentrer rapidement. Nous pouvons fournir tous les services nécessaires afin qu'ils aient le confort suffisant pour rester vivre ici.
À l'hôpital Najdeh, le nombre de blessés admis a beaucoup baissé depuis lundi, mais les équipes dorment toujours sur place. Alors que les bombardements se poursuivent autour de Nabatieh, le personnel de santé reste sur ses gardes. Amélie David, Nabatieh, RFI.
Et depuis le 2 mars, l'armée israélienne a tué 133 personnels de santé au Liban, d'après les chiffres du ministère de la Santé. La Russie menace l'Ukraine de nouvelles frappes massives après l'attaque visant Moscou. Hier, des drones ukrainiens ont échappé aux défenses antiaériennes et ont notamment frappé une importante raffinerie située au sud-est de la capitale russe. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué sur Telegram vouloir que la guerre s'arrête avant l'hiver par le biais de la diplomatie et de pression sur Moscou, tout en précisant que Kiev aurait besoin d'aide si le conflit était amené à se poursuivre. C'est aussi ce qu'il a affirmé devant le Conseil européen. En Angleterre, les résultats de la législative partielle à Makerfield dans le nord-ouest du pays et la victoire d'Andy Burnham, le maire travailliste du Grand Manchester. Le scrutin était décisif pour lui, qui est pressenti pour remplacer Keir Starmer comme premier ministre britannique. Remporter un poste de député est un prérequis pour espérer prendre les rênes du parti et s'installer à Downing Street. En France, l'enquête sur le meurtre de Liana, cette collégienne de 11 ans enlevée et retrouvée morte le 4 juin dans le Gers. Les résultats de l'autopsie ont été dévoilés et révèlent que la fillette a été violée. Les causes de son décès ne sont pas encore connues. Le principal suspect est en détention provisoire. Il est visé par plusieurs plaintes pour viol sur mineur. Une affaire qui a profondément ému tout le pays et qui a relancé les débats sur les défaillances du système judiciaire français. En France toujours, le salon Vivatech se tient jusqu'à demain. 15 000 startups venues de 60 pays sont réunies à Paris depuis mercredi. C'est l'un des plus grands rendez-vous au monde dédié aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle. Parmi les invités, l'américain Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Et pour les entreprises de la tech européenne, une question se pose. Comment réduire la dépendance aux États-Unis? Un bras de fer loin d'être gagné, Pierre-Olivier.
Dans les allées de Vivatech, c'est le cri du cœur des patrons de startups. La préférence européenne. Changer la loi pour favoriser les entreprises du vieux continent face aux américaines et aux chinoises. Michel Curec, directeur général de Multiverse, start-up qui compresse l'IA pour la rendre moins énergivore.
Aux États-Unis, quand vous êtes européen, c'est très difficile d'avoir un contrat parce qu'il y a une préférence nationale. Et bien, il faudrait que l'Europe fasse la même chose et arrête d'être naïve de ce point de vue-là. Et une volonté, quand il y a un appel d'offres, de privilégier des entreprises européennes plutôt que d'aller chercher des gros acteurs, des GAFAM américains.
Il y a quelques jours, Bruxelles a d'ailleurs proposé d'exclure les prestataires non européens de certains contrats publics. Mais l'autre gros point noir, c'est le financement. Comment faire pour qu'une pépite européenne ne soit pas rachetée par les États-Unis? Patrick Martin, président du MEDEF.
Il faut aller beaucoup plus vite sur ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux pour précisément conserver au sein de l'Union européenne cette épargne abondante et la flécher vers l'innovation d'une manière générale, l'intelligence artificielle, le quantique en particulier. Quand Mistral lève 3 milliards, le moindre de ses concurrents américains lève 30 milliards.
Là encore, l'UE travaille sur un projet pour permettre aux capitaux de circuler plus rapidement. Mais pendant que l'Europe discute des règles du jeu, la Chine et les États-Unis, eux, marquent des points.
Explication signée Pierre-Olivier. Et je vous le rappelle, Vivatech, c'est jusqu'à demain à Paris. La suite de la Coupe du Monde de football avec 4 matchs encore entre ce jeudi soir et ce vendredi matin. Bonjour Cédric de Oliveira.
Bonjour.
Vous avez suivi ces matchs et le principal enseignement, c'est que le Mexique est le premier pays assuré d'être en 16e de finale.
Oui, il fallait que le Mexique gagne face à la Corée du Sud et il a eu besoin d'une grossière erreur de Sung-Yu Kim, le gardien sud-coréen qui a manqué sa sortie pour permettre à Luis Romo de marquer dans le but vide. On jouait la 50e minute à Guadalajara, 1-0 et après la victoire mexicaine, donc ça a suffi à cette équipe qu'on surnomme El Tri. Les Mexicains ont donc franchi le premier tour après avoir été éliminé justement au premier tour en 2022. Dans l'autre match du groupe A, la République tchèque a été accrochée par l'Afrique du Sud 1-1 et les deux équipes peuvent toujours espérer se qualifier pour la suite. Et puis dans le groupe B, le Canada a lui étrié 6-0 le Qatar à Vancouver, triplé pour Jonathan David, l'attaquant de la Juventus Turin. A noter quand même la blessure d'Ismaël Koné, le milieu de terrain canadien, gros coup dur pour le Canada qui entrevoit quand même la qualification puisque les Canucks sont en tête avec une meilleure différence de but que la Suisse. La Nati a elle battu la Bosnie 4-1, tous les buts ont été marqués en fin de rencontre quasiment dans le dernier quart d'heure. La suprématie du groupe B se jouera mercredi prochain entre la Suisse et le Canada qui sont donc bien partis pour se qualifier pour les 16e de finale.
Merci Cédric de Oliveira et les matchs s'enchaînent à suivre ce vendredi, notamment les États-Unis face à l'Australie, la Turquie défie le Paraguay et puis dans le groupe C, le Maroc affrontera l'Écosse à 22h temps universel. Le Brésil défiera de son côté Haïti. Du cinéma pour finir avec le succès surprise à Hollywood qui vient de débarquer dans les salles françaises. Le film d'horreur Backroom surfe sur un phénomène né sur Internet, des salles vides et inquiétantes, un univers parallèle existant aux frontières du nôtre et que l'on appelle les Backrooms. Le film est signé d'un tout jeune réalisateur américain, 20 ans à peine, Sophie Torlotin.
À l'origine du phénomène Backroom, il y a une photographie, sans titre ni auteur, postée en 2019 sur un forum consacré au paranormal. On y voit un dédale de pièces au mur jaune et au néon cru. La passion pour ce que l'on appelle les espaces liminaux, univers parallèles et labyrinthiques, désespérément vides, gagne rapidement Internet, puis les jeux vidéo, jusqu'à la plateforme YouTube, sur laquelle le réalisateur Ken Parsons fait ses armes adolescentes. Son long métrage est un huis clos angoissant au sous-texte psychanalytique et explorant des pièces cachées au sous-sol d'un magasin de meubles.
Je sais que ça paraît dingue, mais c'est immense là-dedans.
Brillamment réalisé, avec deux stars à l'affiche, Chiwetel Ejiofor et Renate Reinsve, il a déjà rapporté 130 millions de dollars au box-office américain, soit plus de 13 fois son budget initial. À seulement 20 ans, Ken Parsons est devenu la nouvelle mascotte de Hollywood, capable d'attirer en salle les jeunes de la génération Z, et plusieurs suites sont déjà prévues pour enrichir la franchise Backroom.
C'est comme un labyrinthe qui n'en finit pas.
Voilà pour le phénomène Backroom actuellement au cinéma. Vous écoutez RFI, il est 6h13 à Paris, 4h13 en temps universel, c'est la fin de ce journal.
Fabrice Le Grillet.
Et à suivre dans les prochaines minutes sur la Radio du Monde, notre reportage international qui nous conduira à Boston aux États-Unis dans un instant. Reportage aussi en France où l'on enregistre une forte baisse du nombre de bénévoles réguliers. Moins 500 000 personnes en un an. Des maillons qui sont pourtant essentiels. En cause notamment la diminution des subventions accordées aux associations. Oriane Gendreau s'est rendue dans l'antenne du Secours Populaire de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Et puis notre invité culture ce matin, Enki Bilal, l'auteur de BD, mais aussi peintre et cinéaste qui ouvre un nouveau lieu culturel en plein cœur de Paris. Lieu où l'on retrouve bien sûr les œuvres de l'artiste, mais qui s'ouvrira aussi à d'autres créateurs dans le courant de l'année. Enki Bilal veut faire de cet endroit un lieu de résistance culturelle, comme il nous l'expliquera au micro de Sophie Torlotin. On reparle de la Coupe du Monde de football et Brésil-Haïti. Ce sera la nuit prochaine à 2h30 du matin, heure de Paris. Ça se passera à Philadelphie. Deuxième match des Grenadiers après leur défaite face à l'Écosse la semaine dernière. La communauté haïtienne des États-Unis est euphorique de les voir jouer comme une respiration après des mois de tensions migratoires. Mais l'anxiété n'est jamais très loin car d'ici à 15 jours, la Cour suprême américaine doit se prononcer sur la possible suppression du TPS, le statut de protection temporaire qui permet à 350 000 haïtiens de résider légalement sur le sol américain et les efforts de la diaspora pour mobiliser le Congrès ne sont pas encore consolidés. Reportage à Boston, signé Vincent Sourlier.
First of all, I need to get it out of my chest. It's getting harder to leave. I live in a memory. First of all, I need to get it out of my chest. It's harder to leave. I live in a memory of the past. Of the past, past. First of all, let's try to be honest. I'm neither male or female. I'm both at equal distance. Joy and fear of my elders, joy and fear of my brothers, joy and fear of my sisters.
dit que tu cherchais un sang nouveau, hein? Bon, alors, écoute ça!
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
C'est désagréable à l'oreille, mais enfin, c'est bien ce qu'on entend en ce moment sur l'amélioration de fréquence.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars!
Alright, we're gonna try a new song. This is a song written by Lorient. Today was the first time we ever saw it.
The star of the show.
J'avais l'âge de l'hippie, fan de musique au groupe déjà rodé. Faire de ma vie un type palité, j'crois qu'il aime tarauder. En clair, j'aimais la funk de D-Train à Earthwing. Les poètes sur mon suite, le lust, les sphères de saison qui zouine. Coupe à fond, Walkman, 7-4 dans le cartable. Pas de soupe ni de Batman, monte les Walkman. En vrai, révélation du rap, bien plus qu'un film à déclic. Le Sud 84, la classe quand j'ai vu la technique. Sydney illumine, le hip-hop culmine, c'est comme à Brooklyn. Des gens dans ce battle, comme on se bat sur le ring. Peace, love, unity, selon Bambata. Survête capable, et scratch grave quand tu rappes pas. Du bon temps, de l'espoir, vu avec des yeux d'enfant. Ça m'inspire, ça m'attire, comme une odeur d'encens. Je vois des b-boys, des flyers, des belles paroles, des flyers. Un air comme nulle part ailleurs, y'a ni bad boy, ni flingueur. Back in the day, j'veux des hits. Un retour aux valeurs hip-hop, j'veux des hits. J'veux des hits. J'veux des hits. J'veux des hits. Un retour aux valeurs hip-hop, j'veux des hits. For the rap industry, j'veux des hits. Old school et nous, c'est des school enfants. J'veux des hits. It's time to kick a rhyme out. Tel un rat de marée, de rap attitude à rap train. Et sur nos bases, à freestyle, gagne sur les années. Je m'identifiais à ces filles au mic. Saga, elle, c'est live, comme elle, je voulais témoigner. L'atmosphère va un peu moins pisse. Point de regard fixe, révolution des artistes. Le hip-hop ne devait être qu'une mode inondée. Mauvaise onde pour de jeunes gosses bornes et drogués. J'y croyais pas, Tarzel et au-delà, ça rap si est là. Je rappe avec des types au flow mythique, à la daze et fête de Kila. On répète, fenêtre un pario. Des frissons lors de première mixtape pour radio. Référence Pete Ross, Miguel, Grandstar, Miguel. Fidèle au mic dans le garage d'été en hiver. A cappella, en producteur et DA. Les bons surtout que notre passion devienne à tout une chance à attraper là.
J'veux des hits, un retour aux valeurs hip-hop. J'veux des hits. J'veux des hits.
Old school et nous c'est de school enfant.
J'veux des hits.
On canalise, sans texte, on analyse. La prod d'un maxi, rapport peu mais galvanise. J'ai plus du recul, des sangs, des cinglants. Comment l'industrie a déployé ses armes en 7 ans. Du rappé en boucle, mon armée en doute. On bat, on déroute, vend des Big Mac et des jingles pour la redoute. Gonflé comme un mal à part Californie. Rap caviar pour les gosses, cap, rasgur qui fornique. Mon rap s'est souillé, perdu dépouillé. Mes refrains, ne me dites pas que mon art s'est rouillé. Je me dure au cul, des soul survivors. Des roots, des warriors, des types qui tuent au mic. Contenu messaging de master. Dès qu'il y a du fond et de la forme, du flow et de la tonne, du son et que ça donne, je suis à fond, y'a que ça comme, j'envisage le rap pour que ça cogne. Pourquoi là la mise, la reine entre en lice, le pied dans la.